du boulevard. Là. Pandémie de grippe A, H1N1. Ça vous dit-tu de quoi? Je pense que oui, on en parle depuis un bon bout de temps. Ça a l'air compliqué, s'organiser avec le vaccin. Puis là, au Canada, on a commandé des vaccins, ça s'en vient. Puis là, t'as l'Agence de santé du Canada qui va donner tout ça à l'Agence de la santé du Québec. Puis après ça, le Québec va s'organiser avec. Puis est-ce que vous avez peur? C'est-tu si grave que ça? Peut-être pas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir peur ou pas? On a en ligne ce matin un homme qui dit que... ouais. La grippe A, là, H1N1, là, oubliez ça, là. On essaye de vous faire peur pour rien. Et son nom, en tant que tel, c'est Monsieur Jean-Jacques Crèvecoeur, qui dit que, finalement, la grippe A, H1N1, c'est un complot. On l'a en ligne. Monsieur Crèvecoeur, bon matin.
Oui, bon matin, Monsieur Bonnette.
Première question, vous êtes qui, vous, Monsieur Crèvecoeur?
Eh bien, écoutez, je suis un Belge émigré au Québec depuis 6 ans,
okay.
Scientifique de formation, et je me suis spécialisé depuis 25 ans dans ce qu'on appelle l'épistémologie des pratiques médicales. L'épistémologie, c'est un grand mot pour dire simplement quelqu'un qui réfléchit de façon critique à ce qu'on fait lorsque on pratique une forme de médecine. Alors, je m'intéresse aussi bien aux médecines parallèles qu'à la médecine scientifique traditionnelle. La médecine hospitalière. Et une question qui me préoccupe depuis 25 ans aussi, c'est la question des vaccins.
Et les vaccins, vous en pensez quoi? Parce que là, il y a une campagne de vaccination qui s'en vient. Là, c'est un peu nébuleux, moi, vous dire franchement, du côté de la grippe AH1N1. On a parlé dans l'émission à plusieurs spécialistes qui gravitent autour de cette question-là. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Est-ce que le virus qu'on a présentement va muter pour se transformer en une autre sorte de virus? On n'a pas vraiment de réponse, on ne le sait pas trop. On devrait-tu avoir peur de la grippe AH1N1?
Ben, écoutez, moi je vais être très clair avec vous. Ce dont on devrait avoir peur, c'est de tout ce qui est en train de se préparer autour de cette grippe AH1N1. Parce que moi, ce que je trouve nouveau, parce que bon, ça fait 25 ans que je me bats pour dénoncer tous les effets secondaires négatifs des vaccins et aussi pour dénoncer l'inutilité et l'inefficacité des vaccins. J'ai des références en masse pour prouver que effectivement aucun vaccin dans l'histoire de la vaccination n'a jamais apporté une amélioration en termes de santé publique. Et ça, je l'affirme parce que ce qui fait que la plupart des maladies infectieuses ont disparu, c'est l'amélioration des conditions d'hygiène et l'amélioration des conditions de conditionnement de la nourriture. D'ailleurs, la plupart des maladies infectieuses avaient déjà diminué de 90% avant que on mette au point certains vaccins. Donc, c'est bien la preuve que les maladies infectieuses ont disparu avant même, si vous voulez, et même il y a une maladie qui a disparu complètement sans vaccin parce qu'on n'a jamais pu inventer ce vaccin, c'est la scarlatine. La scarlatine, c'était une maladie terrible qui a complètement disparu alors qu'on n'a jamais mis au point de vaccin.
Là, vous êtes en train de me dire que si je prends exemple la grippe, normal,
oui.
L'influenza, les gens qui se font vacciner parce que c'est de plus en plus populaire à chaque année,
oui.
Ça change rien.
Ça change, non seulement ça ne change rien, mais il y a une étude qui a été faite au niveau international par un organisme qui s'appelle Cochrane et qui pour une fois est un organisme indépendant des compagnies pharmaceutiques, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte d'une chose, c'est que la plupart des études qui sont disponibles sur le marché sont des études qui sont faites par les fabricants de vaccins eux-mêmes. Donc évidemment, on peut se douter que certaines données sont biaisées et sont trafiquées. Mais il y a un organisme international, donc qui s'appelle Cochrane, qui a évalué l'impact de 40 ans de vaccination contre la grippe par rapport à l'incidence de la grippe. Les conclusions de Cochrane sont absolument dramatiques pour les sociétés pharmaceutiques, dans le sens où on se rend compte que 40 ans de vaccination n'a absolument pas du tout changé ni le nombre de grippes saisonnières annuellement, ni le nombre de personnes qui mouraient chaque année de la grippe. Alors, je voudrais quand même rappeler une chose aussi que la plupart des auditeurs ne connaissent pas, et des journalistes non plus d'ailleurs, c'est que la grippe ordinaire, donc la grippe saisonnière, hein, ouais. Pas la H1N1, fait chaque année entre 250 et 500 000 morts par an dans le monde. Et ça, ce sont des chiffres officiels de l'Organisation mondiale de la santé, qui pourtant fait la promotion du vaccin. Donc, quand on regarde 250 à 500 000 morts par an pour la grippe ordinaire, ça veut dire, en moyenne, si vous faites un calcul, à peu près 1 000 à 1500 personnes mortes par jour. Les chiffres pour le Québec, c'est que la grippe saisonnière fait entre 7 et 8 000 morts par an. Or, ici au Québec, on parle de combien de morts pour l'instant avec H1N1?
Il n'y en a pas beaucoup comparé à ces chiffres-là. Je pense même dans le monde, on est rendu à quoi? Je pense que c'est 2200?
Non, on est rendu à un peu plus de 3000.
Un peu plus de 3000.
Alors que la grippe ordinaire, pendant la même période, a déjà fait plus de 200 000 morts. Mais ça, on n'en parle absolument pas.
Pourquoi? Oui. Mais pourquoi vous dites ça, OK? Puis, dans le fond, on regarde la majorité des grands pays, l'Australie, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne aussi en même temps. Mais eux sont tous embarqués. En mode, ça prend des vaccins. Donc, il y a personne de qualifié quelque part qui est allumé comme vous puis qui a dit, ben là, wow, attendez, peut-être qu'on est en train de virer sur le top pour rien.
Ben, je ne suis pas le seul, heureusement, mais nous ne sommes pas très nombreux, effectivement, à tirer la sonnette d'alarme et à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Moi, j'ai trouvé ça tout de suite bizarre et suspect que dès le début du mois d'avril, chaque fois qu'il y avait un nouveau cas de grippe, on ameutait la planète entière pour dire « attention, il y a encore un cas de grippe H1N1 ». Alors que, en fin de compte, il y a beaucoup moins de gens, et je le répète, qui sont morts de cette grippe que de la grippe ordinaire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les chiffres des pays de l'hémisphère sud. Parce que je vous rappelle que nous sommes le 21 septembre aujourd'hui. C'est le printemps pour l'Australie, pour l'Argentine, pour le Chili, etc. Donc, eux, ils ont vécu tout l'hiver avec la grippe H1N1. Savez-vous combien... par exemple, je vais prendre l'Australie parce que je connais les chiffres. Combien de morts il y a eu en Australie, sachant qu'en Australie, il y a 20 millions d'habitants? Eh bien, il y a eu en tout et pour tout, sur tout l'hiver, depuis le début de la grippe H1N1, 88 morts. Alors que l'OMS avait annoncé plusieurs millions de morts pour l'Australie.
Un des problèmes, monsieur Crèvecœur, dont plusieurs personnes ont peur, c'est que le virus puisse muter avec un autre, qui devienne plus dangereux. Plus grave. Oui. Parce que jusqu'à maintenant, c'est tel que tel. C'est ce qu'on dit sur nos ondes depuis le début. Attendons, faut pas virer fou non plus. Mais il y a quand même une possibilité que le virus se transforme avec un autre qui soit plus fort.
Oui. Alors, c'est là où c'est très inquiétant et c'est là où je veux revenir sur une phrase que je n'ai pas terminée tout à l'heure. C'est que pour la première fois depuis 25 ans que je m'intéresse à cette question des virus, je lis dans un certain nombre de journaux des gens qui étaient partisans des vaccins, qui s'opposent de façon extrêmement violente et extrêmement forte à ce vaccin-ci de H1N1. Donc, je dirais, à la limite, le débat pour savoir est-ce qu'il faut, oui ou non, vacciner en général les enfants, etc., c'est même pas le débat aujourd'hui. Le débat aujourd'hui, c'est que des gens qui, jusqu'à présent, ont toujours été pro-vaccinalistes, sont en train de dire... Ne vous faites pas vacciner. Savez-vous qu'en Angleterre, par exemple, plus de 50% des médecins et 30% des infirmières déclarent qu'ils ne se feront en aucun cas vacciner avec le vaccin de la grippe H1N1. Pourquoi? Ouais. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un vaccin dont la préparation a été complètement bâclée. On est en train d'accélérer les processus de vérification et on n'a aucun recul pour savoir si ce vaccin est sans danger ou pas. Deuxième raison pour laquelle les partisans des vaccins sont contre ce vaccin-ci, c'est que on va mettre une dose d'adjuvant beaucoup plus importante, et les adjuvants, ce sont en fait des produits extrêmement toxiques, puisque on parle de l'aluminium et de le squalène, et le squalène a été quand même responsable du syndrome de la guerre du Golfe, qui a rendu 180 000 GIs malades en 91, il faut quand même s'en souvenir de cela. Eh bien, on met dans ce vaccin H1N1 plus d'adjuvants que jamais dans l'histoire des vaccins, on a mis dans un vaccin jusqu'à présent.
Pourquoi?
Ah, la raison, en fait, c'est une raison technique. C'est que comme il y a une forte demande de vaccins, les fabricants de vaccins vont mettre beaucoup moins de virus dans chaque dose du vaccin, puisque comme vous le savez, un vaccin, qu'est-ce qu'on met dedans? On met un virus qu'on a multiplié dans un, ben, dans une, je dirais dans un laboratoire, et puis on rajoute de l'adjuvant qui stimule la réaction du système immunitaire. Or, comme ici, ils n'ont pas le temps de faire se multiplier tous les virus avec un nombre suffisant pour remplir chaque dose de vaccin. Ils mettent jusqu'à 10 fois moins de virus dans la dose de vaccin, mais du coup, ils sont obligés de mettre beaucoup plus d'adjuvants. Or, ce sont les adjuvants qui sont responsables de la mort subite du nourrisson, des cas d'autisme, du syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie neurovégétative, dégénérative, pardon. Et toute une série de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce vaccin, il faut être clair là-dessus, ça va être une bombe sur le plan chimique et bactériologique. Et ce que beaucoup de spécialistes craignent, et des gens qui sont virologistes ou biologistes, ce qu'ils craignent, c'est que la mutation du virus va être provoquée par le vaccin et pas par un processus, entre guillemets, naturel, si vous voulez.
Pour aller un petit peu plus loin, oui. J'étais en train de lire en fin de semaine ce qu'a écrit Jane Burgermeister.
Oui.
Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ah, oui,
parce
oui,
qu'elle
oui,
a déposé oui, oui. là une plainte contre l'Organisme mondial de la santé.
Absolument.
Barack Obama.
Oui.
En tout, ce qu'elle dit entre autres, c'est que c'est ça rapport avec les sociétés pharmaceutiques et que en fait, on serait du côté de la compagnie qui produit le vaccin, on pourrait mettre là on est rendu dans le bioterrorisme.
Oui.
Vous en pensez quoi de ça? Qu'il y a des gens qui, des compagnies pourraient mettre dedans des produits pour faire du bioterrorisme?
Mais moi, ce que j'en pense, c'est que je me pose effectivement beaucoup de questions. Je me demande, par exemple, pourquoi et comment Baxter, hein, puisqu'il faut les nommer quand même, pourquoi Baxter a réussi à contaminer 72 kilos de matériel vaccinal en mélangeant le virus de la grippe humaine, le H3N2, avec le virus de la grippe aviaire, H5N1. Or, ce genre de mélange, en fonction des normes de sécurité des laboratoires qui travaillent sur les virus, ce genre de mélange ne peut pas avoir lieu, tout simplement. Parce qu'il y a de telles normes de sécurité que ce genre d'accident est impossible. Alors, soit ça a été volontaire, ça c'est ce que Jane Burgermeister dit, que donc il y a eu une contamination du virus et en plus ce matériel viral a été envoyé dans 4 pays, dans des laboratoires, dont l'Autriche, la Tchéquie, etc. Soit ça a été une négligence criminelle. Mais dans les deux cas, c'est extrêmement gravissime. Tous les spécialistes en virologie disent c'est le genre de mélange qu'on n'aurait jamais dû faire.
Mmh.
Alors, ça c'est une première question. La deuxième question que je me pose et qui est encore plus grave, c'est pourquoi est-ce que la secrétaire de la santé américaine, Madame Sebelius, a-t-elle fait voter au mois de juillet, entendez-moi bien, une loi qui confère l'immunité juridique totale aux compagnies fabriquant les vaccins au cas où il y aurait des morts ou des malades suite à la campagne de vaccination à H1N1?
Ben, ce qu'on a fait, M. Crèvecœur, c'est qu'on est allé voir le gouvernement du Canada.
Oui.
Et une nouvelle qui est sortie ce matin, là, on sait pas trop encore du côté du gouvernement si les Canadiens qui vont souffrir de graves effets secondaires vont pouvoir intenter des poursuites contre les producteurs de l'injection. Là, ça discute, mais on le sait pas, on n'a pas trop voulu en dire là, ce matin du côté du gouvernement fédéral.
Ben, je comprends ça, parce que dans d'autres pays, carrément, les lois ont été votées. En tout cas, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, la loi a été explicitement votée. Et si ça ne ressemble pas à une license to kill, hein, comme pour faire allusion au titre d'un James Bond, c'est-à-dire est-ce que c'est pas une permission de tuer qui a été donnée par les gouvernements aux compagnies pharmaceutiques, moi, là, je ne comprends plus rien, voyez. Et une chose que je veux encore vous dire, parce que ça, c'est important que les auditeurs l'entendent, c'est que ce que, de nouveau, les spécialistes, qui, je le répète, sont des partisans des vaccins, sont en train de dire, c'est que ce qu'ils craignent, c'est qu'à partir du moment où la campagne de vaccination va démarrer, c'est là que le virus va muter, à cause des vaccins. Et donc, c'est là qu'il va y avoir de la mortalité, surtout aussi avec la prise de Tamiflu qui va provoquer des surinfections bactériennes pulmonaires. Et on va attribuer au méchant virus H1N1, qui n'est absolument pas méchant pour l'instant, la responsabilité de tous les morts. Et là, ça va créer une panique. Alors, c'est pour ça que pour l'instant, je développe énormément d'énergie pour prévenir les gens avant qu'on ne commence la campagne de vaccination, parce que une fois que la campagne de vaccination aura commencé, c'est là que vous allez observer des morts. En Australie, ils n'ont pas eu de mort parce qu'ils n'avaient pas de vaccin. Vous comprenez?
Ouais.
Ils n'ont pas eu de vaccin, donc du coup, le virus n'a pas muté parce que pour qu'un virus mute, il faut des conditions extrêmement sévères et extrêmement précises. Et de toute façon, un dernier argument pour dire aux gens n'allez pas vous faire vacciner, c'est que si le virus mute, les vaccins qui ont été mis au point depuis plusieurs mois ne servira plus à rien, puisque je vous rappelle qu'un vaccin ne fonctionne dans la théorie vaccinale habituelle, parce que moi je vous dis ça ne fonctionne même pas un vaccin, mais un vaccin ne fonctionne qu'en fonction du virus que l'on a choisi au départ. Mais si ce virus mute, le vaccin ne vous sert plus à rien puisqu'il ne vous protège plus contre le virus muté. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement?
Oui. J'ai deux questions pour vous, oui. M. Crèvecoeur, en terminant. Okay. Juste revenir un peu à l'Organisme mondial de la santé et tout.
Oui.
Okay. Le fait d'avoir déclaré la grippe H1N1 comme étant une pandémie,
oui.
Ça leur sert à quoi, ça, à l'OMS? C'est quoi? Ils ont des liens avec les compagnies pharmaceutiques? C'est tout du lobbying à l'intérieur pour faire de l'argent? Paye-en un, paye-moi après. C'est quoi le but de ça? Ils en retirent quoi, l'OMS?
Ben, il faut que vous sachiez que l'OMS est financée par essentiellement quatre grands financiers. Il y a deux financiers qui sont les deux plus gros fabricants de vaccins du monde, et par la banque Rockefeller et par la banque Rothschild. Quand on sait que Rockefeller et Rothschild, ce sont des gens qui fréquentent des organisations internationales qui veulent mettre en place un gouvernement mondial et un nouvel ordre mondial, eh bien vous aurez vite compris qu'en fait l'OMS n'est qu'un instrument de ces gens qui veulent mettre en place un État totalitaire sous prétexte que il faut protéger le bon peuple que nous sommes.
Et si moi, ce matin, je vous écoute et, je décide de ne pas me faire vacciner, je fais quoi?
Ça, c'est la question à $1 million, parce que malgré tout ce qu'on nous dit dans les médias pour nous rassurer, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure les médias nous rassurent, pour nous dire que la vaccination n'est pas obligatoire, sauf si les circonstances le nécessite. En fait, ce qui va se passer, et là je veux bien parier tout ce que vous voulez avec vous, si leur plan réussit, ce qui va se passer, c'est que dès que les gens vont commencer à se précipiter sur les vaccins, c'est là qu'il va commencer à y avoir une hécatombe. Lorsqu'il y aura une hécatombe, là on va déclarer l'état d'urgence, et là vous n'aurez plus la liberté de choisir ou de dire oui ou de dire non au vaccin. C'est aussi simple que ça. Et si vous me demandez je fais quoi, je n'en sais rien, parce que même moi, par rapport à ma propre vie, je ne sais pas ce que je ferai. Parce que c'est évident que je refuserai le vaccin, mais il est très probable, et j'ai reçu hier une information confidentielle qui vient d'un employé du gouvernement, il est très probable que je me ferai mettre en centre de détention, pour ne pas dire un camp de concentration. Il paraît que Mirabel a été transformé en centre de détention. On se demandait pourquoi l'aéroport était vide. Eh bien...
Attendez, répétez-moi ça encore, là, je veux bien comprendre. On est rendu jusque-là, selon vous?
On est rendu jusque-là, monsieur. On est rendu jusque-là. Moi, ça m'effraie. Aux États-Unis, les choses sont beaucoup plus claires. Il y a 800 camps de concentration qui sont vides. Les soldats ont été entraînés. Il y a quand même 400 000 militaires américains qui sont déployés sur le sol américain. Il y a des fuites, évidemment, venant de certains militaires qui sont écœurés de ce qui est en train de se passer. Et ces militaires ont été spécialement entraînés ces derniers mois pour faire des barrages routiers, pour arrêter les gens, pour vérifier si, oui ou non, ils sont vaccinés. S'ils ne sont pas vaccinés, on les vaccine sur place. S'ils ne veulent pas, on les envoie dans des camps de concentration.
Donc, il doit y avoir des auditeurs et des auditrices, puis moi j'en fais un peu partie là, en même temps qu'ils vous écoutent et vous me racontez tout ça, puis là, je suis en train de me dire, coudonc, est-ce que le monsieur en question est en train de virer fou?
Mais je suis tout à fait sain d'esprit. Je ne suis en plus pas quelqu'un qui souffre de paranoïa quelconque. Mais le problème, vous voyez, c'est que dans ma carrière, j'ai été essentiellement formateur et conférencier. Dans ma carrière, à un moment donné, j'ai été approché par ces gens qui sont en train de mettre en place ce qu'on peut appeler un gouvernement mondial. Ils ont essayé de me recruter pour les aider à mieux manipuler l'opinion publique à travers les médias et les journaux, puisque à l'époque, j'étais un grand spécialiste des jeux de pouvoir et de la manipulation, pour apprendre aux gens justement à repérer les manipulations et les déjouer. Et j'ai été approché par ces gens qui m'ont confirmé qu'effectivement, il y avait des plans qui se mettaient en place. Je leur ai ri au visage en leur disant que ça ne m'intéressait pas de travailler pour eux pour manipuler la population. Depuis lors, j'ai quelques ennuis avec les autorités de différents pays. Je suis considéré comme un individu dangereux parce que tout simplement, mon travail à moi, c'est simplement de faire en sorte que chaque individu puisse rester libre et respecté. Moi, je ne dis pas à ceux qui veulent se faire vacciner, n'allez pas vous faire vacciner. Je dirais que chacun est libre de le faire. Mais je pense qu'il est important que chaque personne reçoive une information complète. Et ça, pour l'instant, dans le débat sur H1N1, on n'a pas une information complète.
Parce
pas
que
du tout.
Si vous êtes un spécialiste de la manipulation, il n'y a rien qui dit que vous n'êtes pas en train de le faire sur moi.
Oui, la ça, population. C'est, ça c'est sûr. Mais alors, demandez-vous, quel serait mon intérêt à moi de dire aux gens, n'allez pas vous faire vacciner. C'est quoi mon intérêt? J'ai aucun intérêt.
Vous venez dans la région, M. Crèvecœur?
Oui, je viens dans la région pour donner 3 conférences sur justement H1N1, puis la problématique des vaccins, et faire comprendre aux gens ce que c'est un système immunitaire et les virus. Et donc, je viendrai à l'école Odyssée-Lafontaine, donc à Chicoutimi.
Oui.
Et donc, les dates, c'est la première date, ce sera le mercredi 7 octobre à 7h du soir. Il n'y a pas de réservation nécessaire.
Les gens se présentent à l'école Odyssée-Lafontaine, puis pour 7h et... c'est quoi, c'est à 7h, donc 6h30, 7h moins quart, puis on rentre?
Qu'ils arrivent à 6h30, effectivement, okay. Parce que je pense qu'on aura énormément de monde. J'ai décidé de faire cette tournée de conférences, en tout cas tant qu'on me laisse parler en public, parce que en France, dernièrement, le Premier ministre français m'a interdit de conférence parce que je dérangeais l'intérêt des sociétés pharmaceutiques, vous voyez. Donc, je ne suis pas nécessairement bienvenu partout.
Combien ça coûte?
Alors, pour les étudiants, c'est 13$. Et pour monsieur et madame tout le monde, et les sans-emploi, et pour monsieur et madame tout le monde, c'est 20$.
OK. Puis là, vous revenez le mercredi, le 28 octobre?
Oui, je reviens le 28 octobre, là, pour parler de l'ensemble de la problématique des vaccins, c'est-à-dire expliquer toute l'histoire des vaccins, et je présenterai des extraits du film de Lina Moreco, Silence, on vaccine, qui est un excellent film documentaire sur les effets secondaires des vaccins, film qui lui aussi a essayé d'être interdit par Santé Canada, Santé Canada qui a fait pression sur l'ONF, donc l'Office national du film, pour que ce film ne sorte pas en DVD, figurez-vous. Donc vous voyez qu'on est dans le meilleur des mondes, et puis je reviendrai encore le 18 novembre, toujours des mercredis, pour parler cette fois-ci du système immunitaire et des microbes.
Toujours à l'école Odyssée-Lafontaine.
Toujours à l'école Odyssée-Lafontaine, effectivement.
Monsieur Crèvecœur, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, Monsieur Monette, et dormez bien malgré tout.
Ouais, ben là, au début, on s'est dit, OK, là, on discutait, ça allait bien, mais quand vous avez commencé à parler de camps de concentration, puis la police, l'armée, tout le kit, là, je me demandais si c'était vous, le gouvernement, qui commençait à me donner le plus la chienne là-dessus.
Oui, ben, écoutez, moi, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais vérifiez et suivez vos intuitions. Vous verrez que probablement, il y a des choses que je vous dis qui vont être recoupées dans les prochains jours.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, au revoir.
Au revoir. Monsieur Jean-Jacques Crèvecœur sur nos ondes ce matin.
Ouais.
Ouais. Ça...
Parce que là, la semaine passée, on va se le dire, sur tous nos comptes de courriel, on recevait des espèces de PowerPoint, des informations, à savoir que c'était extrêmement dangereux. Puis moi, ces affaires-là, je les lis pas. Quand ça a l'air des états de panique, là, des chaînes de
lettres...
Quand
ça a l'air excessif, tu te dis, ouais, OK, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Écoute, il me parlait à un moment donné, et je pensais que c'était comme dans Prison Break. La grande évasion, où ce qu'à un moment donné, il va avoir un seul leader pour diriger la planète, puis c'est toutes des entreprises qui sont ensemble, que tout le monde est relié au grand complet. C'est tel que tel, mais avant ça, le bout était très intéressant.
Oui, oui, mais il a l'air sain d'esprit, c'est ça qui m'inquiète. Oui.
Si
ça avait été un fou allié, là, puis ça paraissait dans sa voix, je me serais dit, bon, on va prendre ça avec un grain de sel. Mais là, il a l'air normal.
Faut pas virer fou non plus.
Ah non.
Là, on commencera pas à virer sur le top anyway, là, depuis le début de cette fameuse grippe-là, la grippe AH1N1. C'est ça qu'on dit, la grippe tue bien plus de monde par année que la grippe jusqu'à maintenant. Le seul problème, c'est si jamais ce virus-là mute avec un autre. Il est là le problème, là.
Ça fait longtemps que je dis que je me ferais pas vacciner anyway parce que j'ai la chienne des vaccins.
Il est 9h-10.
95.7 Radio X, le show du matin.
My mom, she hates it.
Okay, stand by.
Who is Shelly?
Qui est où, Charlie, et gagne 1000 piastres par jour minimum?
Charlie, tu es où?
Pour trouver Charlie, écoute Kick Radio X. Charlie donne un indice à chaque heure. La chasse est ouverte. Si tu le pognes, tu peux le piner. À chaque jour du concours, t'as jusqu'à 17h30 pour trouver notre Charlie. Et s'il n'est pas trouvé, on ajoute un autre 250$ pour le jour suivant et ainsi de suite. Charlie, où es-tu? Et voici Charlie qui dit « Attrape-moi si tu peux ».
Attrape-moi si tu peux.
Trouve Charlie, c'est payant. Pour plus de détails, écoute Radio X ou visite kickradiox.com. Te
caches-tu?
Où es-tu?
Où est Charlie?
Ici Claude B, en direct de ma Mazda 3, pour vous dire ce que je vois dans la cour d'Alma Mazda. La voiture de l'année et meilleur achat selon le guide Loto 2010, la Mazda 3 berline 2010. À partir de 14 950 et 0% de financement à l'achat jusqu'à 36 mois. C'est pas tout. Présentement chez Alma Mazda.